Vous écoutez, on lit pour vous.
Des compressions budgétaires ont raison d'une clinique dentaire pour patients vulnérables. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 30 mars 2026 dans Le Devoir. Une clinique dentaire montréalaise qui traitait gratuitement des patients à faible revenu mettra la clé sous la porte le 30 avril prochain en raison de compressions budgétaires, a appris Le Devoir. Sa fermeture risque de compliquer l'accès aux soins pour une clientèle déjà vulnérable. Ouverte depuis 2021, la clinique de dentisterie communautaire Dentaville, située à l'hôpital Notre-Dame, dans le quartier Centre-Sud, a traité plus de 2700 patients à faible revenu au fil des ans. Des soins dentaires généraux étaient offerts à ce cabinet, comme des bilans, des radiographies, des restaurations ou des extractions. Les prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale n'y étaient toutefois pas admissibles, ceux-ci ayant déjà accès à des programmes spécifiques. Avant d'être envoyée à cette clinique, il y a environ 3 ans, Sylvie Marchand raconte qu'elle n'avait pas consulté de dentiste depuis des années, faute de moyens. La fermeture des lieux est lamentable, déplore la quinquagénaire en soupirant. Le service y était très humain. Et quand on voit plus de 2700 patients, c'est clair que le besoin est réel. La décision de mettre fin aux activités de ce cabinet a été prise par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal, dans une optique de rétablissement de l'équilibre budgétaire, affirme le porte-parole Benoît Pellerin. Au fil des ans, le budget annuel accordé à Dentaville par le CIUS a fluctué entre 320 000 et 870 000 $. Il souhaite maintenant se recentrer sur ses missions prioritaires, souligne M. Pellerin, rappelant que les soins dentaires ne font pas partie des services de base du réseau public. Pourtant, à la création de la clinique en 2021, le ministre de la Santé de l'époque, Christian Dubé, disait vouloir développer l'intégration de la médecine dentaire au système de santé. Ce cabinet avait vu le jour grâce à un financement gouvernemental dans le cadre d'un projet pilote. Ses activités ont ensuite été reconduites d'année en année jusqu'à la décision de le fermer. Des solutions de rechange, mais pas dans le quartier. En prévision de la fermeture, les patients sont informés d'autres options de cabinets offrant des soins à moindre coût, indique Benoît Pellerin. Dans cette liste figure la clinique Jim Land, dans le quartier Saint-Henri, celle des facultés de médecine dentaire de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, ainsi que celle de denturologie du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Aucune n'est toutefois située dans le quartier Centre-Sud. Sylvie Marchand insiste cependant sur l'importance d'un service entièrement gratuit dans le quartier, où l'on trouve une grande précarité. Sans accès à des soins dentaires sans frais à proximité, plusieurs personnes vulnérables risquent tout simplement de renoncer à se faire traiter, déplore-t-elle. Régime canadien. Après la fermeture de Dentaville, des gens pourraient également être dirigés vers des cliniques à prix courant en utilisant le régime canadien de soins dentaires, RCSD, précise M. Pellerin du CIUS. Mais cette solution comporte des limites, souligne la docteure Marie-Claude Desjardins, présidente de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Même avec une couverture annoncée comme complète, il peut rester des frais à payer. Le gouvernement fédéral a établi sa propre grille de remboursement, inférieure aux tarifs courants en clinique. Ainsi, même un patient admissible à la couverture maximale du RCSD verra en moyenne seulement jusqu'à 80% des coûts remboursés, explique-t-elle. Du côté de Dentaville, une lueur d'espoir demeure. Des discussions sont en cours au sujet de la possibilité pour l'Université de Montréal de reprendre les rênes du cabinet, car celui-ci constituait un lieu de stage pour les étudiants, affirme Benoît Pellerin. C'était « Des compressions budgétaires ont raison d'une clinique dentaire pour patients vulnérables », Un texte de Florence Morin-Martel paru le 30 mars 2026 dans Le Devoir.
Des serveurs informatiques comme chauffe-eau. Un texte de Valérie Simard paru le 23 mars 2026 dans la presse. Au moment de prendre leur douche, les clients d'un hôtel de Drummondville ne se doutent pas qu'une ferme de calcul servant à l'intelligence artificielle et aux jeux vidéo a joué un rôle dans le chauffage de l'eau. Coup d'œil sur une union inusitée entre l'hôtellerie et l'informatique en nuage. Une drôle de boîte, ayant la forme d'un réfrigérateur, trône dans la bruyante salle des machines de l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Cette tour noire, munie de fils de lumière et d'un écran, est un chauffe-eau numérique. Installé il y a 2 ans, celui-ci héberge des serveurs informatiques de la jeune entreprise montréalaise Splitome Computing. Splitome Computing offre de la puissance informatique à des entreprises d'effets spéciaux, de jeux vidéo et d'intelligence artificielle. Son entreprise sœur, Splitome Energy, récupère la chaleur des serveurs pour chauffer l'eau ou l'air de bâtiments. Sans ce système, de l'électricité supplémentaire devrait être utilisée pour refroidir les serveurs. Contrairement à Splitome, les centres de données utilisent le plus souvent le refroidissement à l'air par la climatisation ou l'utilisation de l'air frais extérieur, particulièrement en hiver. Il faut trouver une solution à moyen et à long terme pour que ce ne soit pas catastrophique, indique la propriétaire de l'hôtel, Caroline Milo, à propos de la multiplication des centres de données. Dans le chauffe-eau numérique, l'eau circule dans des tuyaux qui serpentent entre les serveurs en circuit fermé. Cette eau n'est pas celle qui est utilisée pour la consommation. Par un dispositif d'échange thermique, la chaleur récupérée est transférée au chauffe-eau de consommation. L'eau est ensuite utilisée dans les 125 chambres de l'hôtel, les cuisines et la buanderie. La majeure partie de l'électricité consommée par le serveur est convertie en chaleur. Pour chaque kilowattheure d'électricité utilisée, 875 watts sont récupérés, soit 87,5%. Dans un hôtel, la consommation d'eau est variable, ce qui oblige Splitome à stocker l'eau dans des réservoirs pour en faire monter la température. On est capable de chauffer l'eau jusqu'à 65-70 degrés Celsius la nuit, quand il n'y a pas de consommation, précise le président de Splitome, Gaëtan Hugo. Le matin, l'eau chaude est prête. Mais quand le débit de consommation est élevé, l'eau ne peut être préchauffée que de 2 ou 3 degrés Celsius. Même 2 degrés Celsius, ce n'est pas négligeable pour Caroline Milo. C'est une énergie qu'on n'a pas à dépenser par nos chauffe-eau, se réjouit-elle. Cette première phase du projet permet à l'hôtel de réduire sa facture annuelle de gaz naturel de 2%, environ 1950 dollars, et d'éviter l'émission d'environ 6 tonnes de CO2. Madame Milo aimerait prochainement accueillir davantage de serveurs pour chauffer la piscine intérieure de son établissement. Fondée par son grand-père en 1963, l'entreprise familiale a depuis plusieurs années le souci de diminuer sa consommation d'énergie. Elle terminera bientôt l'installation de thermopompes dans 60 chambres. Dans les années 1990, l'hôtel a été l'un des premiers au Québec à installer un système de gestion d'énergie informatisé permettant de contrôler la température de tous les locaux, payant des deux côtés. L'installation à l'hôtel Le Dauphin est l'un des premiers projets pilotes de Splitome. Depuis, l'entreprise a déployé sa technologie dans d'autres types de bâtiments, dont un immeuble résidentiel où la récupération de chaleur a permis, en janvier, d'économiser 88% du gaz naturel utilisé pour le chauffage par rapport à janvier 2025. Les propriétaires qui accueillent les serveurs de Splitome n'ont pas à payer pour l'installation du système. Ils profitent des économies d'énergie, mais une partie de celle-ci est versée à Splitome qui paie le coût de l'électricité nécessaire au fonctionnement des serveurs. Pour l'entreprise, l'avantage financier est clair. Ça nous permet d'avoir des infrastructures où installer nos serveurs pour un peu moins cher, dit Gaëtan Hugo. On consomme aussi beaucoup moins d'électricité parce qu'on n'a pas à refroidir. L'idée est pertinente, juge Didier Ayot, professeur à l'École des technologies supérieures, l'ETS, et directeur du Laboratoire des technologies de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Cette chaleur doit nécessairement être évacuée, car sinon, on atteindrait des niveaux de température qui pourraient endommager le serveur, indique-t-il. La jeune pousse montréalaise n'est pas la seule à s'intéresser à la valorisation des rejets thermiques. Au Québec, nombre d'industries et de sites d'épuration rejettent de grandes quantités de chaleur. Plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours. Didier Ayot cite l'exemple des serres Toundra, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont environ le quart des besoins en chauffage sont comblés par les rejets de chaleur de l'usine de pâte de produits forestiers résolus. La récupération de chaleur dans les industries fait partie des actions mentionnées dans le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Pour Didier Ayot, d'un point de vue environnemental, une question fondamentale se pose toutefois devant la croissance exponentielle des centres de données servant à des usages comme l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Ce développement répond-il à un besoin essentiel pour la société? En savoir plus, source, Agence internationale de l'énergie. 40% proportion de l'énergie consommée par les centres de données dans le monde utilisée pour le refroidissement des serveurs en 2022. C'était « Des serveurs informatiques comme chauffe-eau », un texte de Valérie Simard, paru le 23 mars 2026 dans la presse.
Fin du projet « Histoire au féminin », un héritage durable pour la valorisation des femmes acadiennes, un texte de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, FFANE, paru le 7 avril 2026 dans Le Courrier. Le projet a permis la rédaction et la publication de leur biographie sur Wikipédia, portail de l'Acadie, renforçant ainsi leur visibilité dans l'espace public et numérique. Malgré certains défis liés à la recherche documentaire et aux exigences de publication sur Wikipédia, le projet a mobilisé des participantes engagées et a renforcé leurs compétences en recherche archivistique, en rédaction et en utilisation d'outils technologiques. Au cours des deux phases du projet, les participantes bénévoles et les coordonnatrices Annie Irène Enangeboa et Flore Asuguma Nfoniele ont contribué à la rédaction et à la publication de biographies mettant en valeur des femmes leaders profondément engagées dans leur communauté. Parmi elles figurent notamment Mme Hélène Thimault, Mme Glenda Doucet-Boudreau, Mme Cécile Amiraud-Gérin, Madame Bernice d'Entremont, Madame Yvette d'Entremont, Madame Émilie Doucet ou Doucette, Madame Rose-Irène d'Entremont, Madame Sylvia Lelièvre, Madame Mé Bouchard, Madame Betty Dugas, ainsi que la FFANE elle-même en tant qu'organisation. Une attestation particulière a également été portée à l'une des membres bâtisseuses de l'organisme, Madame Denise Sanson, en l'honneur de qui un certificat a été créé. Ces biographies, désormais accessibles au public, continueront de valoriser les femmes acadiennes et de promouvoir le leadership féminin. Elles constituent aussi des ressources éducatives durables, appelées à inspirer et à informer les générations futures. La FFANE tient à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du projet. Elle remercie chaleureusement les participantes bénévoles Ina Amiro et Julie Larade, les formateurs Félix Leblanc, François Guérin et Stéphanie Saint-Pierre. La FFANE souligne également l'appui précieux des partenaires communautaires et institutionnels, ainsi que les bailleurs de fonds dont le soutien constant permet de poursuivre sa mission. Alors que le projet arrive à son terme, la FFANE réaffirme son engagement envers l'égalité des sexes et la valorisation des femmes. Fort des apprentissages et des acquis de cette initiative, elle entend poursuivre ses efforts pour promouvoir le leadership féminin et mettre en lumière des contributions essentielles des femmes acadiennes. C'était, fin du projet Histoire au féminin, un héritage durable pour la valorisation des femmes acadiennes, un texte de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, paru le 7 avril 2026 dans Le Courrier.
La trêve se veut fragile dans le golfe Persique. Un texte de l'agence France Presse, paru le 8 avril 2026 sur ici.radio-canada.ca. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran semblait précaire mercredi matin dans le golfe Persique, quelques heures après l'annonce in extremis d'une trêve de 2 semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Si 2 navires ont pu franchir cette stratégique voie maritime, la méfiance reste forte entre les 2 parties. Le vice-président américain, J.D. Vance, a reconnu, depuis la Hongrie où il est en visite, que le cessez-le-feu était fragile. Il a mis en garde l'Iran contre toute tricherie. Au même moment, le Koweït a indiqué avoir subi ces dernières heures une intense vague d'attaques iraniennes qui ont endommagé installations pétrolières, centrales électriques et usines de dessalement, selon l'armée. Les Émirats arabes unis ont aussi fait état de nouveaux tirs de missiles et de drones. Après un mardi ponctué de frappes et de menaces d'anéantissement de la civilisation iranienne proférées par Donald Trump, l'annonce d'une trêve est tombée en pleine nuit en Iran. Mercredi, Téhéran avait des allures de jour férié. Certains habitants préférant rester chez eux en attendant d'y voir plus clair, tandis que d'autres avaient fui durant la nuit. « J'ai encore des douleurs à cause de la peur causée par ces menaces », explique à l'AFP Simin, enseignante d'anglais de 48 ans. « Nous avons été terrifiés au plus profond de nous-mêmes. Le choc et la pression psychologique ont été si intenses que, même maintenant, on ne sait pas si on doit se sentir soulagé par la trêve ou pas. » Victoire totale. L'Iran et les États-Unis ont revendiqué chacun la victoire. Une victoire totale et complète, 100%, a assuré Donald Trump à l'AFP par téléphone. Il a affirmé que la question de l'uranium iranien, qu'il accuse d'être utilisé à des fins militaires, serait parfaitement réglée. Même ton triomphaliste à Téhéran. L'Iran a remporté une grande victoire, a estimé le Conseil suprême de la sécurité d'Iran, soulignant que la trêve ne signifiait pas la fin de la guerre et que l'Iran n'accepterait la cessation des hostilités que lorsque les négociations auraient abouti. Les autorités iraniennes ont annoncé des pourparlers avec Washington à partir de vendredi au Pakistan, médiateur clé dans la guerre au Moyen-Orient entamée le 28 février et qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban. Les discussions sont prévues pour 2 semaines, une période susceptible d'être prolongée en accord avec les 2 parties, selon la plus haute instance de sécurité d'Iran. Frappe au Liban. Au Liban, le conflit se poursuit, Israël affirmant que le pays n'est pas concerné par la trêve entre l'Iran et les États-Unis, contrairement à ce qu'avait déclaré le Pakistan. Israël est en guerre contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah depuis le 2 mars, après des tirs de roquettes du mouvement sur son territoire. De nouvelles frappes israéliennes ont touché mercredi matin le sud du Liban, où 8 personnes avaient été tuées lors d'une attaque à Saïdapeu avant l'annonce du cessez-le-feu. La bataille continue, a martelé l'armée israélienne, en dépit des appels français et espagnols à cesser le feu également sur ce front. De son côté, le Hezbollah n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis 1 heure, heure locale environ. L'armée israélienne a confirmé en revanche qu'elle observait la trêve avec l'Iran, tout en restant en état d'alerte élevé. Mécanisme pour Hormuz. Deux premiers navires, l'un grec et l'autre battant pavillon du Libéria, ont franchi le détroit d'Hormuz, au cœur du conflit, selon le site de suivi maritime Marine Traffic. Et l'Organisation maritime internationale, OMI, agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a dit travailler à un mécanisme pour garantir la sécurité du transit. L'Iran a pris, au début de la guerre, le contrôle de ce passage maritime stratégique, par où transitait notamment 20 % du brut mondial avant la guerre, dont la réouverture a été présentée comme une condition du cessez-le-feu. Donald Trump a exigé son ouverture totale, immédiate et sécurisée en échange du cessez-le-feu. Côté iranien, les dirigeants ont confirmé qu'ils acceptaient de rouvrir pendant une période de 2 semaines le détroit si les attaques contre l'Iran cessent, a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Mais l'armée surveillera le passage quotidien limité des navires. Plus largement, le président américain a fait part de discussions très avancées en vue d'un accord de paix à long terme avec l'Iran. Téhéran a transmis une proposition en 10 points qui constitue une base viable pour négocier, a-t-il noté. La Maison-Blanche a ensuite dit envisager des discussions en personne avec les Iraniens. Selon les médias iraniens, le plan proposé par Téhéran réclame la levée des sanctions qui asphyxient l'économie iranienne. Il prévoit en outre que Washington accepte l'enrichissement d'uranium, une mention toutefois absente de la copie anglaise transmise à l'ONU. Les marchés ont salué la nouvelle. Les cours du pétrole, WTI comme Brent, sont repassés sous les 100 dollars US le baril. Le gaz européen a plongé de 20 % et les marchés boursiers montrent des signes d'euphorie. À Paris, plus 4,06 % comme à Francfort, plus 4,69 %. C'était « La trêve se veut fragile dans le golfe Persique », un texte de l'agence France-Presse, paru le 8 avril 2026 sur ici.radio-canada.ca.
Acheter canadien, parole ou réalité? Une chronique d'Alain Rey, publiée dans la presse du 19 mars 2026. Depuis quelque temps, Ottawa et Québec répètent le même mot d'ordre. Il faut diversifier notre économie. Réduire notre dépendance envers les États-Unis. Développer de nouveaux partenaires commerciaux. Sécuriser nos chaînes d'approvisionnement dans un monde devenu plus instable. L'objectif est légitime. Les dernières années, marquées par la pandémie, des tensions commerciales et des conflits géopolitiques, ont rappelé à quel point une économie trop dépendante d'un partenaire peut devenir vulnérable. Mais au moment même où nous cherchons à diversifier nos relations à l'international, une question mérite d'être posée. En faisons-nous assez pour soutenir nos propres entreprises? Car il existe un paradoxe dont on parle peu. Chaque année, les gouvernements fédéraux et provinciaux dépensent des dizaines de milliards de dollars en biens et services, médicaments, équipements médicaux, produits d'entretien, technologies ou infrastructures. Ces dépenses publiques représentent l'un des leviers économiques les plus puissants dont dispose l'État. Pourtant, dans de nombreux appels d'offres publics, la notion même d'entreprise canadienne demeure floue. Trop souvent, une simple présence administrative au pays suffit. Un bureau, un entrepôt ou une filiale. Mais derrière cette présence locale, les décisions stratégiques, les investissements et les profits peuvent se trouver ailleurs, bien souvent aux États-Unis. La distinction peut sembler technique. Elle est pourtant cruciale. Un exemple concret illustre bien le problème. Dans un récent appel d'offres publiques du gouvernement du Québec, d'environ 8 millions de dollars pour des produits de nettoyage et de désinfection. Plus de la moitié des contrats ont été attribués à des entreprises étrangères, même si des fabricants québécois et canadiens produisent ces types de produits ici. À première vue, rien d'illégal. Les règles d'approvisionnement visent à garantir la concurrence et le meilleur prix pour les contribuables. Mais lorsque ces règles ne tiennent pas compte de l'endroit où se prennent les décisions et où sont réinvestis les profits, elles peuvent produire un effet inattendu, financer la croissance industrielle de nos voisins plutôt que la nôtre. On retrouve la même logique dans des secteurs encore plus stratégiques. Aujourd'hui, plus de 75 % des entreprises pharmaceutiques actives au Québec sont contrôlées par des intérêts étrangers, dont une part importante par des sociétés américaines. Cela signifie que les décisions concernant la production, l'investissement ou la gestion des chaînes d'approvisionnement sont souvent prises ailleurs. La pandémie nous a pourtant offert un rappel brutal. Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont tendues, plusieurs pays ont priorisé leur propre marché pour l'accès à certains produits essentiels. Les États-Unis l'ont fait, l'Europe aussi. Le Canada a alors redécouvert l'importance stratégique de ses propres capacités industrielles. Mais une fois la crise passée, nos habitudes semblent avoir rapidement repris le dessus. Il ne s'agit pas de fermer nos marchés ni de sombrer dans un protectionnisme rigide. Mais il faut reconnaître une chose. Les achats publics sont aussi un outil de politique économique. Une première piste serait simplement de clarifier ce que l'on entend par « entreprise canadienne ». On pourrait pourtant tenir compte davantage du contrôle réel de l'entreprise, de l'endroit où se prennent les décisions et de la destination des profits. Une deuxième piste serait d'utiliser pleinement les achats publics comme levier économique. Ottawa a d'ailleurs amorcé ce virage avec sa politique « acheter canadien », selon laquelle le gouvernement fédéral doit prioriser les entreprises canadiennes ainsi que les produits et le contenu faits au Canada. Diversifier nos partenaires économiques est devenu un mot d'ordre largement partagé. Mais la diversification commence peut-être par se demander si l'argent public contribue réellement à bâtir l'économie d'ici. Car au-delà des discours et des stratégies commerciales, l'autonomie économique se construit aussi dans les décisions que nous prenons chez nous. Fin de cette chronique d'Alain Rey, titrée « Acheter canadien, parole ou réalité », publiée dans la presse du 19 mars 2026.